Europe 1, midi 14h, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue sur Europe 1 dans La France bouge. Ici, vous le savez, on aime vous montrer que sans vous, les choses n'avancent pas. Nous croyons dur comme fer que vous qui nous écoutez dans vos entreprises, dans vos associations, vous avez les clés pour changer notre société. Et c'est vrai que le mouvement s'est encore intensifié avec la crise. On va le voir ensemble pendant une heure avec, bien sûr, à mes côtés, comme chaque jour, Elisabeth Assayag. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Raphaël et bonjour à toutes et à tous.
Et le coach qui nous accompagne cette semaine est là aussi, c'est Frédéric Mazella. Bonjour Frédéric.
Bonjour Raphaël, bonjour Elisabeth, bonjour à toutes
bonjour
et à
Fred.
Tous.
Fondateur de Blablacar, entre autres évidemment. L'époque que nous vivons, hein, c'est vrai, est compliquée, nous a obligés à repenser certains modèles, mais vous allez voir que cela n'empêche pas les entrepreneurs de se lancer dans l'aventure. Bonjour Lionel Le Floch.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Super Green. Alors, vous avez 37 ans, je dis tout. Hein. Et depuis 2 ans, vous travaillez sur un concept de chaussures de ville végétale pour hommes. Vous êtes en train de terminer votre campagne de crowdfunding. Je crois qu'elle s'arrête aujourd'hui. Vous dites que votre chaussure, qui s'appelle la Cornflex, a des super pourvoirs. Alors, je vais vous laisser la baguette magique pendant 1 minute 30 pour nous convaincre.
Super.
On vous écoute. C'est parti.
Tout le monde porte des chaussures en cuir. Et si on imaginait une alternative à la peau animale pour nos chaussures? Nous pourrions ainsi éviter la surconsommation de l'eau, sa pollution par le chrome et les colorants chimiques. Nous pourrions ne pas cautionner les conditions déplorables des travailleurs bengalis, chinois, et au passage éviter la souffrance animale. Aujourd'hui, l'alternative au cuir, c'est le synthétique, pétrole et plastique. Et nous, ça nous va pas non plus. On a décidé avec Carole de marcher vers des chemins plus vertueux. Nous avons donc créé Super Green, une marque de chaussures faites en matière végétale. Maïs, bois, sève d'arbre, le tout fabriqué entièrement en Europe. Notre premier modèle, c'est une chaussure de ville pour homme. Pour remplacer, on a utilisé une super matière. Elle est résistante, laisse respirer la peau, se patine avec le temps comme un vrai beau cuir. Sauf que c'est du maïs. Notre semelle est en gomme naturelle, elle est biodégradable et elle est made in France. Chaque détail a été éco-pensé. Des lacets en coton biorecyclé au fil organique. Nous avons choisi de commercialiser nos chaussures en précommande afin d'éviter le problème de la surproduction. 2 ans d'études pour arriver à ce résultat. Une chaussure super cool, super solide, super écologique et on en est super fiers. D'ailleurs, vous avez jusqu'à ce soir minuit pour précommander vos chaussures de ville Super Green sur Ulule au prix spécial de 129 euros. Alors, vous êtes green comment? Super green, non?
Bon, alors c'est un pitch préparé, hein, on l'entend, c'est un peu écrit quand même. Hein, voilà, attention, parce que quand on pitch, il faut être convaincu et vous l'étiez, mais il faut laisser son papier, Lionel Le Floch, parce qu'on est à la radio et ça s'entend.
D'accord.
Alors ça sera ma première remarque, okay. Mais je suis sûre que le coach et Elisabeth ont des choses à vous dire. On vous écoute, Frédéric Mazella.
Oui, alors belle initiative. J'ai une question sur les...
Merci.
C'est tout bête, mais sur les semelles. Les semelles aussi, vous arrivez à faire des semelles en matière complètement... je parle des semelles intérieures, en matière complètement végétale ou recyclable, et qui est quand même toutes les vertus qu'il faut pour pouvoir bien marcher avec.
Alors, vous parlez de la semelle intérieure, c'est... On utilise du coton biorecyclé pour l'intérieur. Donc elle a toutes caractéristiques bien sûr de respiration et on peut marcher avec sans aucun problème.
La fabrication elle est faite au Portugal, hein, cette chaussure, pour des questions de coûts, de main d'œuvre, ça reste européen, vous allez me dire.
Oui, alors on a décidé de fabriquer au Portugal pour différentes raisons. Déjà parce qu'on connaissait très bien le partenaire et c'est un partenaire qui est engagé sur tous les points, sur les évolutions éco-responsables. Donc ça, c'est un point essentiel. Et on souhaitait aussi, l'un des points importants de Super Green, c'est aussi de rendre la mode éco-responsable abordable. Donc ça, c'est aussi un point essentiel. C'est l'un des points pourquoi on a choisi de fabriquer au Portugal.
Elisabeth ?
Oui, donc quand on va sur la campagne Ulule, hein, vous le dites tout de suite, hein, elles sont moins impactantes pour la planète, elles sont pour les hommes, elles sont super souples, elles sont pas comme les autres, elles ont des super pouvoirs, mais est-ce qu'elles sont confortables, hein, parce que déjà acheter des chaussures sur internet, c'est compliqué, hein, tout le monde n'a pas encore ce geste, sauf si il y a des conditions de renvoi intéressantes. Et donc là, en quoi est-ce que je peux être sûre que ce sera confortable?
Alors, elles sont extrêmement souples, elles sont très durables. Alors, c'est vrai que acheter sur Internet, c'est un nouveau, enfin, ça se développe.
C'est pas nouveau,
ça se normalise.
Oui, il y a pas mal de marques, effectivement, qui le font déjà, mais c'est pas encore complètement rentré dans les mœurs pour tout le monde. Et peut-être un peu moins pour les hommes, d'ailleurs.
C'est vrai. Alors, nous, l'un des points qu'on n'a pas pu mettre en place, alors c'est vrai que nous, on veut mettre aussi l'humain au cœur du projet, et l'un des projets qu'on a, c'est en fait d'aller à la rencontre des gens et de créer des événements dans différents endroits dans la France pour montrer la chaussure, pour que les gens puissent déjà nous rencontrer, voir le produit par eux-mêmes, le toucher, voir notre super matière et constater d'eux-mêmes la super souplesse de nos chaussures.
Oui, donc c'est important effectivement de la voir en main et de voir justement les propriétés que vous nous décrivez. Je crois que vous voulez, Lionel, créer un laboratoire, ça c'est l'étape d'après, qui associe la biochimie et la mode. Donc vraiment aller beaucoup plus loin dans la démarche.
Voilà, là c'est un premier modèle qu'on lance. Et notre projet à moyen long terme, c'est en fait de créer un laboratoire entre la biochimie et la mode, parce qu'on se rend compte que pour créer des chaussures les plus écologiques possibles, c'est la biochimie qui a l'une des clés. Et donc d'associer ces deux éléments nous permettrait de créer, nous, l'objectif ultime pour nous, c'est de créer la chaussure biodégradable, la plus locale possible et la plus stylée.
Merci beaucoup pour la présentation de ces super greens et de cette Cornflex, donc au pouvoir magique, campagne qui s'achève ce soir. Merci Lionel Le Floch d'avoir été avec nous sur Europe 1.
Il est 13h14.
Europe 1.
Vous voulez faire vos courses chez vos commerçants de quartier, être livré? Eh bien c'est possible, la solution c'est Mon Petit e-commerce. Avec Elisabeth Assayag, à tout de suite. Il est 13h17, c'est l'heure de découvrir la solution d'Elisabeth Assayag, Raphaël.
Oui, faire ses courses avec des commerçants locaux, avec de bons produits, mais aussi avec d'autres commerçants. C'est ce que propose Elisabeth, mon petit e-commerce, et c'est la solution de déconfinement. Oui, mon petit e-commerce a démarré il y a tout juste 2 ans. L'idée, c'est de promouvoir le commerce de proximité, mettre en avant des commerçants locaux qui ne savent pas toujours comment communiquer sur les réseaux. Mon petit e-commerce leur permet d'élargir leur clientèle. Ce qui était une tendance qui s'installait petit à petit s'impose complètement à partir du confinement à la mi-mars. Là aussi, on a affaire à une entreprise qui s'est adaptée puisqu'elle ne s'est plus contentée de mettre en avant, de proposer des petits commerces de bouche, mais aussi des fleuristes, des pressings, des réparateurs de téléphones. Bonjour Nathalie Cohen.
Bonjour Elisabeth.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes la cofondatrice de Mon Petit e-commerce. Votre modèle, vous, a littéralement explosé à partir de la mi-mars, à partir du confinement, du début du confinement.
Oui, c'est ça. La solution était complètement adaptée parce qu'elle permet de découvrir des commerçants à proximité et puis surtout de pouvoir aussi acheter facilement en ligne, de retirer rapidement ou bien de se faire livrer. Et pendant cette période de confinement, notamment, on est passé pour les commerçants, à plusieurs dizaines de commandes par mois, à plusieurs centaines par semaine. Et les consommateurs ont pu facilement continuer à s'approvisionner en produits frais. Et nos commerçants ont pu s'adapter aussi. Je pense notamment à nos commerçants des marchés qui se sont retrouvés sans aucun lieu de vente pendant plusieurs semaines et qui ont réussi, grâce à la solution Mon Petit Commerce, à continuer à approvisionner leurs clients, mais aussi à récupérer de nombreux nouveaux clients.
Voilà, ils sont passés par vous, ils ont continué à travailler, ils ont récupéré des nouveaux clients. Et il y a quelque chose qui a vraiment changé, puisque vous vous êtes adapté et vous avez élargi votre offre.
Oui, on a élargi notre offre parce qu'on a été sollicité par d'autres types de commerces. Et on a réalisé qu'en fait, consommer autrement et consommer localement, ça s'adressait pas forcément à l'alimentaire. Mmh. Et que ces commerces-là étaient contraints d'être fermés, de fonctionner uniquement sur drive ou livraison. Et donc, on a accepté de les rassembler aussi. Et maintenant, mon petit commerce est ouvert à tous les commerçants de proximité,
alors,
indépendants.
Qui est venu à vous? Quel type de commerce?
Alors, vous l'avez dit, on a un fleuriste qui est venu, on a un réparateur de téléphone, on a un fleuriste, un pressing qui est en train de s'installer, magasin de chaussures, vêtements. Donc, on a vraiment été sollicité par des produits d'artisanat aussi. Donc, vraiment tout type de commerce, des personnes qui détiennent des boutiques ou qui vendent sur les marchés et qui souhaitaient continuer d'être visibles et surtout pouvoir proposer lors du déconfinement un service sans contact à leurs clients, éviter des queues très longues devant leur boutique parfois, ouais. Ou même sur les marchés qui ont été un peu réglementés en termes d'affluence. Donc voilà, de pouvoir avoir un canal supplémentaire de vente et puis de visibilité, puis de bénéficier aussi de la communication qu'on peut mener nous pour valoriser leur savoir-faire et les faire connaître.
Bonne initiative, Frédéric Mazella.
Oui, très bonne. Alors, j'ai une question toute bête, mais si moi je veux justement utiliser mon petit e-commerce, je fais comment? Enfin, comment ça marche? Je vais directement sur un site, je trouve tous les commerçants juste à côté, je peux commander, je passe les chercher. Enfin,
oui.
Comment ça se passe?
Oui, vous entrez sur mon petit commerce, vous rentrez l'endroit où vous vous trouvez, où vous pouvez aussi trouver un commerce selon le type de commerce que vous recherchez. Et puis là, vous avez à voir de façon géolocalisée les commerces qui se trouvent autour de vous. Et donc, vous pourrez aller déjà consulter l'offre et vous y rendre directement ou bien acheter en ligne. Et puis, vous achèterez chez plusieurs commerçants parce qu'on valorise aussi la diversité, les synergies entre commerçants de spécialités différentes qui se trouvent à proximité. Donc, vous pourrez aller acheter chez plusieurs commerçants, payer une seule fois et puis aller déterminer pour chaque commerçant la manière dont vous souhaitez récupérer votre commande. Vous pourrez également lui mettre un petit message si vous voulez, une précision. On maintient vraiment la relation privilégiée avec le commerçant. Et côté utilisateur, on a fait en sorte que les courses soient simplifiées un peu à la manière du supermarché.
Il faut aller le chercher, quoi. C'est comme un drive, en fait. C'est un drive pour les petits commerces tout près de chez
vous. Vous allez le chercher, vous pouvez être livré aussi. On adresse aussi les commerçants ambulants, ceux qui font des tournées. Et puis oui, vous allez le chercher sur place où vous pouvez être livré de vos produits. Après, chaque boutique commerçant dispose de sa propre URL, donc vous pouvez aussi directement, parce que votre commerçant vous a communiqué le lien de sa boutique, accéder à sa propre boutique.
Elisabeth?
Alors vous nous l'avez dit, hein, vous avez littéralement explosé dans le bon sens du terme pendant le confinement.
Oui.
Vous étiez seulement en Seine-et-Marne, désormais vous êtes dans toute la France là depuis quelques semaines.
Oui, c'était dans notre projet de déploiement. On avait vraiment prévu en 2020 de se déployer sur l'ensemble de la France. Donc là, on a eu une montée en charge effectivement très brutale et volumineuse. On a aussi, en plus de ce déploiement sur toute la France, adapté notre offre pour proposer aux collectivités publiques, parce qu'on a été sollicité par de nombreuses mairies qui souhaitent réellement accompagner leur commerce dans cette démarche de digitalisation qu'ils ont fait avec les moyens du bord pendant la période de confinement et qui cherchent réellement une solution. Donc on a aussi
se professionnaliser.
Oui,
et donc
oui,
elles
veulent fédérer les commerçants, elles veulent leur apporter une solution qui les rend visibles, qui leur permet de faire de la vente en ligne pour ceux qu'ils souhaitent, tout en elles valorisant leur action. Donc nous, on a adapté aussi en leur proposant de rassembler leur commerce et bénéficier des actions de mon petit e-commerce et d'être aussi support de leur initiative.
Bravo pour cette belle initiative qui va aider effectivement les petits commerçants. C'est Mon Petit e-commerce, c'était la solution aujourd'hui. Merci Nathalie Cohen d'avoir été avec nous.
Il est 13h23.
Europe 1.
Restez avec nous, on va s'intéresser au secteur de la publicité. Comment fait-il face à la crise? Lui aussi est obligé de se réinventer. Et le mouvement, vous allez le voir, est déjà en marche. A tout de suite.
Léa.
France Bouge, cet après-midi, on parle d'un secteur qui a beaucoup souffert de cette crise due au Covid-19, le secteur publicitaire, Raphaël.
Oui, dès l'apparition du coronavirus en France, hein, les différents secteurs de l'économie, c'est vrai, se sont mis à tourner au ralenti et pour certains ont totalement été stoppés. Si c'est vrai pour le tourisme ou encore l'habillement, cela a eu aussi des effets dominos pour les marques qui avaient des produits à vendre et qui étaient empêchées, et pour ceux qui vivent aussi des recettes de ces campagnes. Alors, il a fallu inventer de nouveaux modes de communication qui vont peut-être d'ailleurs perdurer. Bonjour Antoine David.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de l'agence de publicité Rosbif. Avec l'apparition du Covid, c'est vrai que c'est tout un écosystème finalement qui a changé. Il a fallu adapter le marketing, changer les messages pour un même produit.
En fait, avec le confinement, beaucoup de marques, à raison, hein, ont dû adopter une posture assez humble, puisque elles ont marqué une pause publicitaire dont le marché a souffert. Mais cette pause a été plutôt bienvenue parce qu'elle marquait quand même que moi, les interlocuteurs qu'on a avaient pertinemment conscience de pas sauver des vies, si vous voulez. Les marques, les marketeurs et tout ça, donc voilà. Et qu'au cœur d'une crise, c'est pas une éponge anti-rayures ou du pain moelleux qui sauvera la face du monde. Donc il y a eu une pause, mais cette pause, elle est signe surtout d'un changement de mentalité. Et les directeurs marketing, pour faire simple, qui étaient juste alors très incités quand même à faire du court terme par leurs actionnaires pour gagner des points de part de marché ou de notoriété, là, ils ont été incités finalement à répondre, ils vont être incités à répondre à des questions qui sont posées par les consommateurs et qui sont beaucoup plus fondamentales, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ma communauté, qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'environnement, etc.
Ouais, du coup, ça change aussi finalement les axes de communication. On ne cherche plus du futile, entre guillemets, mais du solide. Ça déplace aussi le curseur des valeurs et vous allez devoir vous faire avec.
Mais complètement. En fait, ce qui est pas nouveau, c'est que les consommateurs demandent du sens. Ça fait plusieurs années qu'ils le demandent aux marques. Ce qui est vraiment nouveau pour le coup, c'est que si elles veulent survivre, ces marques, elles vont devoir répondre à ce sens. Et ça veut dire aller plus loin que juste mon produit il est super, je le fabrique comme ça, ou il faut arrêter de dire je t'aime, il faut vraiment là pour le coup donner des preuves d'amour quoi.
Ah oui, exactement, donner des preuves d'amour et le secteur va en avoir besoin, Elisabeth, parce que on le voit, hein, le coronavirus va laisser manifestement des traces sur la publicité.
Le coronavirus, le confinement ont logiquement très fortement impacté toutes les stratégies de communication des marques et ce sont des habitudes qui risquent peut-être de changer à jamais, hein. Ça on ne le sait pas encore mais c'est très probable et c'est une situation sans précédent pour le secteur de la publicité. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu les politiques de confinement, maintenant de distanciation sociale, tout ça entraîne des changements dans les attitudes, dans les normes sociales avec le télétravail, avec l'enseignement à distance, dans la consommation avec l'accélération du e-commerce, des services en ligne et aussi un changement dans la consommation des médias. On va en parler pendant l'émission avec l'augmentation du nombre de téléspectateurs et de l'utilisation des médias digitaux.
Effectivement. Alors Antoine, David, on va prendre un exemple concret parce que vous avez dû changer la forme, vous avez dû changer le fond, on vient d'en parler. Par exemple, pour Gémeaux, une marque pour laquelle vous travaillez, vous vous êtes servi du jeu vidéo Animal Crossing qui est très connu.
Oui, alors en fait c'est ça, c'est pour se on parle là de les marques doivent se réinventer. Oui. Pour qu'elles se réinventent, c'est aussi proposer des produits de manière un peu différente, c'est créer de la surprise, c'est devenir en tant que marque justement presque un objet de divertissement. Et pour Gémeaux justement dont vous parlez, qui est une marque de prêt-à-porter de chaussures, nous il a fallu qu'on présente à un moment de manière hyper pragmatique la nouvelle collection. Parce que c'est l'histoire des marques de prêt-à-porter. Mais c'était impossible puisque, bien entendu, les boutiques étaient fermées.
On ne pouvait pas faire de photos, on ne pouvait pas prendre de photos de modèles.
Alors, exactement. Pour certaines, ces photos étaient déjà prises en amont, puisque c'est un peu anticipé. Sauf que justement, on se voyait pas bien, si vous voulez, diffuser sur les réseaux sociaux des photos de gens en extérieur, sans distanciation sociale, extrêmement libre, etc. On trouvait que l'impact psychologique n'était pas forcément top. Et on a saisi une opportunité, c'était effectivement le lancement de ce jeu vidéo dont vous avez peut-être entendu parler, Animal Crossing, qui est le gros carton, c'est un jeu Nintendo Switch, c'est le gros carton du confinement presque. C'est un simulateur de vie, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est assez mignon.
Avec des petits personnages que vous avez habillés du coup.
C'est très léger. Exactement. Alors du coup, comme n'importe quel joueur aurait pu le faire, en fait, on a créé une boutique. On s'est créé un monde Gémeaux, une boutique Gémeaux, dans laquelle on a pu reproduire, en réalité, en pixels, les vêtements de la collection. Et on les offre toujours d'ailleurs aux joueurs d'Animal Crossing qui le souhaitaient. Donc ils ont pu découvrir la collection. On a même fait un petit défilé de mode virtuel dans le jeu. Et ça, c'est très amusant. Ça donne c'est du contenu, c'est divertissant en soi et c'est une manière assez rigolote finalement de sortir un peu du lot et d'émerger quoi.
Qu'en dit notre coach Frédéric Mazella ?
Alors j'en dis que on envisage du coup un changement de structuration des équipes, parce que c'est pas la même chose de faire les publicités telles qu'on les connaît ou connaissait jusqu'à aujourd'hui que de faire des publicités justement qui sont plus subtiles, plus intelligentes, plus porteuses de sens. Et donc est-ce que ça veut dire qu'il y a une évolution au niveau de la constitution des équipes de toutes les sociétés de publicité? Est-ce qu'il y a des nouveaux métiers qui vont apparaître? Est-ce que on va voir des gens qui changent de métier? Je sais pas, des journalistes qui deviennent justement créateurs de sens et de contenu pour les marques. Comment vous envisagez ça,
Antoine David?
Ouais, effectivement, les profils se sont énormément diversifiés ces dernières années au sein même des agences. Traditionnellement, on avait un peu, c'était un peu la blague, hein, de la guerre entre les commerciaux d'un côté et les créatifs de l'autre, hein, donc les grands esprits, les gens pragmatiques qui en conflit. Ça, c'est plus du tout comme ça. En tout cas, beaucoup d'agences ont pris le pli d'évoluer. On va se rapprocher à certains égards de consultants finalement, et de gens qui vont un peu mettre les mains dans le cambouis du marketing, de la création de produits, la création de valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour vous donner un exemple, quand on est on appelle ça des compétitions, un appel d'offres, on propose pas seulement des publicités. Alors voici le 4x3 monsieur, voici la pub télé madame, etc. Ça va beaucoup plus loin. C'est quel est le nouveau produit qu'on pourrait imaginer ensemble, le nouveau service qui rendrait vraiment service à vos clients et qui aurait une vraie valeur ajoutée. Donc on entre finalement dans des choses beaucoup plus larges. Alors parfois on y va un peu à tâtons, mais oui, ça engage chez nous d'avoir des gens avec des profils beaucoup plus variés qui viennent du média, du sport, alors, de plein d'horizons différents.
Vous restez avec nous évidemment, Antoine David. Je voudrais qu'on accueille ensemble Anthony Spinas qui dirige Gamned. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialisé dans le digital, hein. Vous achetez, on va le dire comme ça, des emplacements pour des annonceurs. Votre métier, c'est quoi? C'est cibler, savoir à quel bon endroit acheter, à quel bon moment acheter aussi?
Exactement. Notre métier, c'est en fait de diffuser des messages de marque sur l'ensemble des supports digitaux de la manière la plus cohérente possible. Cibler notre promesse, pour que ce soit plus clair, c'est diffuser le bon message à la bonne personne au bon moment et avec le bon contexte, bien évidemment.
Alors, pour pouvoir vous adapter justement aux nouvelles attentes, vous avez décidé de vous réunir, je crois, avec 8 autres acteurs du secteur et vous avez mené une enquête. Qu'est-ce qui ressort de cette enquête ?
Alors oui, le constat déjà c'était c'est qu'il y a quand même la majorité des marques, on parle de 60%, 71% des marques qui ont massivement coupé leur budget de communication dès l'annonce d'ailleurs du confinement, et on s'est donc aperçu qu'il y avait quand même des changements de mentalité qui étaient en cours. Donc l'idée c'était en tout cas d'anticiper la reprise qu'on constate, mais qui est encore très très timide. Mais les principaux enseignements de cette étude, c'est que justement, ce qu'on vient de dire précédemment, c'est que aujourd'hui les marques souhaitent plus communiquer sur leurs valeurs, sur leur engagement, sur les actions concrètes qu'elles vont mener. Par exemple, on a vu certaines marques qui ont mis à disposition leurs usines pour fabriquer des masques, qui ont aidé à collecter des fonds pour aider le personnel soignant. Il y a aussi un enjeu sur la consommation digitale, la consommation numérique, parce qu'il faut savoir que l'économie du numérique est responsable de 4% des gaz à effet de serre. Donc, en ce sens, on peut effectivement prévoir des actions pour compenser cette émission de gaz à effet de serre. Donc, encore une fois, on est dans la responsabilité. Et également, on ressent que les marques souhaitent aider l'économie locale. Donc, en tout cas, consommer et travailler plus avec des partenaires locaux, des partenaires français.
Ouais.
Donc, 7 marques sur 10 souhaitent soutenir des initiatives et des partenaires français.
Elisabeth, côté chiffres, qu'est-ce que ça donne? C'est en baisse?
Ça s'est effondré, en tout cas en ce qui concerne pour la télévision et la radio. Il y a une étude de Kantar. Kantar, c'est une entreprise qui est dédiée aux conseils, aux études de marché et au marketing. Et entre le 1er et le 22 mars, donc souvenez-vous, le début du confinement, c'était le 16 mars, leur volume a chuté de 10% pour la télévision, de 16% pour la radio et de 49% pour la presse quotidienne. Ça date de mars, mais là, c'est en train de se régénérer petit à petit, mais les chiffres, oui, ont baissé inévitablement.
Mais la publicité digitale est moins touchée.
La publicité digitale est moins touchée parce que c'est automatique en raison des facteurs de la croissance liée au e-commerce. Les gens ont énormément commandé sur Internet, ont consommé du numérique pendant le confinement. Les recettes de publicité numérique devraient quand même ralentir. pour atteindre une croissance à un chiffre sur l'année contre près de plus de 20% par an. Hein. Depuis 8 ans, c'est plus de 20% par an. Donc, il y a des petits changements, c'est automatique.
Anthony Spinas, dire la publicité, c'est pour la marque, mais ça finance aussi des dons pour telle ou telle association, c'était important pour vous. C'est aussi ça qui ressort clairement aujourd'hui, le côté éthique, le côté responsable.
Bien sûr, c'est bien sûr important pour GetNed, mais c'est notre rôle pour conseiller les marques, de leur proposer des dispositifs engagés, donc de leur proposer effectivement, de, ben, par exemple, pour à chaque euro investi, de reverser une partie de dons pour des associations, divers types d'associations, mais de la même façon, comme je l'ai évoqué au préalable, de effectivement pouvoir compenser son impact publicitaire, donc de se dire également de la même façon, pour chaque euro dépensé, je vais planter un arbre justement pour pouvoir compenser cet impact. Et c'est après aussi une démarche pour, c'est qu'on a tendance à trouver parfois la publicité trop intrusive, donc c'est aussi la volonté des marques, et nous, notre rôle pour les conseiller, c'est d'améliorer cette expérience de marque, d'avoir une publicité qui soit moins intrusive. On n'a pas forcément cette impression d'être suivi, d'être traqué par une marque, ce qui n'est pas forcément agréable pour un internaute.
Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. La France Bouge continue, 13h37.
Europe 1.
Les écrans pubs à la télé et les 4x3 dans nos rues ne délivrent plus les mêmes messages. Vous allez voir qu'il y aura un avant et un après la crise. A tout de suite. La France bouge, c'est jusqu'à 14h avec un dossier cet après-midi consacré au secteur de la publicité qui, avec cette crise, doit se réinventer, Raphaël.
Oui, vous l'avez constaté comme nous tous en ouvrant la radio, en allumant la télévision, les messages publicitaires ont changé. La plupart des marques ont compris que pour continuer à communiquer, il fallait justement modifier le message, l'adapter aussi à la crise, et les chaînes aussi ont accompagné le mouvement. Bonjour Marianne Siprodis.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous, on est ravis de vous recevoir. Vous êtes la directrice générale de France Télévisions Publicité. Et alors, vous avez mis en place plusieurs initiatives, notamment une qui m'intéresse tout particulièrement, le hashtag Comme Solidaire, mis en place dès le 24 mars pour proposer gratuitement vos écrans pour les entreprises qui offraient leurs services aux Français.
Oui, absolument. C'est-à-dire que, comme on vient de le dire précédemment, on a eu à faire face à des reports de campagne au début du confinement, puisque les entreprises se sont dit que, comme les magasins n'étaient pas ouverts, il fallait reporter leur campagne publicitaire. Et du coup, on a réfléchi avec les collaborateurs de la régie et on s'est fixé d'avoir une action pour accompagner les entreprises et faire émerger des marques vertueuses, encourager un peu ce changement. Et on a créé donc un écran comme solidaire pour proposer aux entreprises qui offraient leurs services aux Français pendant cette période de communiquer gratuitement sur nos chaînes, donc sur la fin du mois de mars et au mois d'avril. Donc des entreprises comme la Fnac, par exemple, qui offraient 1000 e-books ou encore du soutien scolaire en ligne avec MaxiCours. Ou encore des collectifs qui aidaient les personnes âgées à domicile gratuitement à faire leurs courses.
Donc il n'y avait pas de raison finalement de se rémunérer sur ces communications.
Oui, on avait de la place puisqu'il y avait ces reports de campagne. Et du coup, on s'est dit que ces entreprises responsables qui offraient leurs services, eh bien, il fallait qu'on les mette un peu à l'honneur dans cette période complexe.
Ouais, votre idée, c'était aussi qu'il y ait du sens et qu'on puisse valoriser les marques qui sont finalement vertueuses, qui font un effort au service du collectif.
Exactement. On a lancé d'ailleurs une autre offre début avril qui s'appelle Unis et Responsables. Et cette offre consistait à mettre à l'honneur aussi les entreprises qui racontent ce qu'elles font pour leurs salariés, leurs collaborateurs, tout ce qui permet donc de mettre à l'honneur l'entreprise dans ses actions solidaires et dans un but de relancer leurs activités.
Oui, c'est important, effectivement. Et on sent que c'est quelque chose qui s'installe et qui va probablement s'installer durablement dans le paysage.
C'est tout à fait clair. On prépare d'ailleurs pour la période qui est la relance un peu économique, hein, puisque notre rôle, c'est aussi d'aider les entreprises avec la publicité à relancer leurs activités. On prépare une démarche un peu de simplification et de personnalisation de leur communication. Et on se dit qu'il y a des thématiques qui pourraient permettre aux entreprises de prendre la parole. D'abord, une communication un peu corporate, parce que c'est vrai que cette crise a révélé un peu le besoin pour les entreprises de mettre en avant leur dimension sociale, leur raison d'être. On vient de le dire, certaines ont transformé leur chaîne de production pour produire des masques, pour produire des gels. Et là, notre idée, c'est de proposer aux entreprises de raconter leurs actions et de mettre en avant, par une série de portraits, donc ceux qui font l'entreprise, ceux qui font le service, ceux qui préparent les produits.
Eh oui, ceux qui font bouger la France, je suis bien d'accord avec vous.
Exactement, ceux qui agissent, c'est-à-dire non pas ceux qui racontent ou qui ont des théories, mais plutôt ceux qui agissent au cœur des entreprises. Et au cœur aussi des régions et des territoires. Ouais, pour nous, c'est important de pouvoir avoir un maillage et de raconter dans cette période, parce que c'est vrai que chacun d'entre nous, chaque consommateur, prend conscience que autour de lui, il existe des ressources qui lui permettent, bien sûr, de se nourrir, d'agir, de vivre.
Oui.
Et du coup, tout ce qui soutient les producteurs locaux, c'est aussi important.
Frédéric Mazella, notre coach, que dit-il de cette initiative de France Télévisions ?
Alors c'est une initiative très circonstanciée. J'avais deux petites questions justement. C'est est-ce que on a observé ça ailleurs qu'en France ? Alors j'imagine que oui, mais est-ce qu'on a des exemples de projets qui sont peut-être allés plus loin ? Et surtout, est-ce que, bon là on se dit tous, on a un ralentissement quelque part favorable à la réflexion, qui a poussé beaucoup de gens dans ce genre d'initiative, mais comment on fait pour que ça dure et que tout ne redevienne pas juste comme avant quand tout sera reparti à fond, ou quand tout le monde est réoccupé dans son quotidien et n'a plus le temps quelque part de réfléchir long terme, comme on l'a eu là, ce temps-là, pendant quelques semaines.
Marianne Tsipras.
Alors, je pense que c'est à nous, en tout cas médias, alors je reviens pas sur le rôle des médias qui font société, hein, et qui racontent, comme à travers votre émission, toutes ces initiatives, mais d'un point de vue publicitaire, je pense que c'est à nous d'accompagner les entreprises pour leur proposer de prendre la parole et de leur offrir des opportunités de mise en avant des filières, des circuits courts, des producteurs, ou encore même, nous on va lancer une offre pour la production française, un écran dédié au Made in France, pour donner un coup de projecteur aux entreprises qui fabriquent leurs produits en France et les valoriser. Et l'idée, c'est justement de montrer qu'on ne parle pas qu'une consommation produit, on va jusqu'au cœur de nos territoires pour identifier ceux qui favorisent l'emploi local, ceux qui fabriquent sur notre territoire, ceux qui soutiennent l'ensemble des...
Vous parlez de territoire, c'est important. Je voudrais justement qu'on regarde ce qui se passe pour les petites radios régionales, parce que, Elisabeth, elles sont en ce moment fortement impactées.
Oui, elles ont été très frappées, hein, surtout qu'elles vivent exclusivement grâce aux campagnes diffusées sur leur antenne. Pour vous donner une idée, en avril, en Occitanie, 10 radios régionales s'unissaient au sein d'une association pour tirer la sonnette d'alarme. Ils le déploraient, hein, nous avons perdu presque la totalité de notre chiffre d'affaires issu des campagnes publicitaires, alors que les mois de printemps sont parmi les plus importants dans la constitution de nos recettes. C'est ce qu'elle disait, hein, dans une lettre adressée aux institutions. Certains annonceurs, notamment les commerçants qui avaient dû fermer temporairement, ont tout de même ressurgi, mais la situation est très loin d'être revenue à la normale.
Alors, ce qui est vrai à la télévision, à la radio, l'est aussi pour le reste de la publicité, le digital notamment. Bonjour Romain Dublanche.
Bonjour Raphaël.
Merci
Bonjour
d'être
Elisabeth.
Avec nous.
Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Vous dirigez InStore Media et vous avez aussi décidé d'offrir vos encarts publicitaires aux initiatives solidaires de la tech. C'était une évidence pour vous ?
Pas du tout. C'est une initiative qui sort totalement de notre périmètre, puisque nous, notre mission InStore Media, c'est de faire du magasin un média et de permettre aux enseignes et aux marques de communiquer au plus près des décisions d'achat. Et lorsque les mesures de confinement tombent, nous nous retrouvons parmi les rares médias d'affichage encore actif parce que nous souhaitions situer dans des lieux autorisés et fréquentés. Donc nous nous adressions moins à des consommateurs, mais plutôt à des Français en confinement. Et alors quand on est un média qui s'adresse en temps normal à près de 15 millions de consommateurs par semaine, bah forcément on se pose la question de notre contribution, de comment nous pourrions nous réinventer pour avoir un impact positif, aussi modeste soit-il. Et donc on a accueilli, un peu comme vous l'avez expliqué Marianne sur France Télévisions, on a accueilli en 6 semaines 11 campagnes qui promouvaient auprès du grand public des initiatives solidaires de la tech. Donc on répondait à l'appel de Cédrico, le secrétaire d'État au numérique, qui avait demandé aux entreprises de la tech d'apporter un soutien gratuit pendant la crise. Et donc nous avons parlé d'entraide entre particuliers avec Allo Voisin, de suivi scolaire avec Willoki, Nomade Éducation, Les Bons Profs, d'apprentissage des langues étrangères avec Kios ou l'éducation.
12 campagnes, c'est ça que vous avez aidé ?
11 campagnes.
11 campagnes.
En 6 semaines.
Alors aujourd'hui, absolument, l'activité redémarre petit à petit, mais vous dites il faut continuer cette communication ou la reprendre où on l'avait laissée ?
Non, il faut la continuer, mais il y a différentes manières, si vous voulez. Instant Media, on est un média du shopper, du point de vente. Donc là, on était dans un contexte assez particulier. Mais par contre, effectivement, l'activité reprend. Nous discutons avec beaucoup de marques en ce moment. Et clairement, on les incite à prendre en compte le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, qui est un contexte quand même d'inquiétude partagée par une grande partie des consommateurs français. Et on explique aux marques qu'il faut prendre en compte ce contexte, qu'elles ne peuvent plus communiquer comme elles communiquaient avant, et elles ne peuvent pas ignorer la gravité de la situation. Et je pense notamment aux marques de grande consommation qui ont un impact direct et quotidien sur le pouvoir d'achat et le bien-être des Français. Donc elles ont eu un premier niveau qui a été de remercier, de s'associer à la rhétorique du moment, donc oui, de remercier les soignants, de remercier les métiers de la distribution, avec un slogan, un jingle ou un visuel qui apportait une touche familière pour reconnaître la marque. Par exemple, on a eu McDonald's qui a dissocié son logo pour exprimer la distanciation sociale. Ce sont des intentions qui sont très louables, mais qui sont temporaires, parce que certains, à la longue, les verront opportunistes.
Bien sûr.
Et puis surtout, parce que la publicité, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Quand on regarde une publicité, on doit se dire, non pas c'est une bonne pub, mais c'est un bon produit.
Bien sûr.
Et donc, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Et je rejoins ce que disait Antoine ou Anthony tout à l'heure. C'est qu'effectivement, il faut que les marques se posent la question de, aujourd'hui, comment elles peuvent être utiles auprès de leurs consommateurs
et comment elles
dans
peuvent
leur vie au quotidien
effectivement amener de la valeur. Merci pour nous avoir aidé à réinventer la publicité. On sera évidemment très attentifs. Merci Marianne Tiprodis et Romain Dublanche d'avoir été avec nous sur Europe 1.
Il est 13h51.
Europe 1.
Vous avez une question restée sans réponse, un problème que vous n'arrivez pas à résoudre, la France Bouge vous donne un coup de main. À tout de suite.
Et la France Bouge se termine, Raphaël, avec le coup de main à une entreprise en difficulté qui se pose simplement des questions pour avancer. D'ailleurs, si vous souhaitez bénéficier de ce coup de main, envoyez-nous un mail à l'adresse suivante e1-lafrancebouge@europe1.fr, Raphaël.
Et votre dossier, nous l'étudierons et c'est Nathalie Carré qui se penchera dessus pour vous aider. Bonjour Nathalie.
Bonjour Raphaël, bonjour tout le monde.
Chargé de mission entrepreneuriat CCI France, et c'est Julien Batifoulier qui est en ligne avec nous, fondateur de Paris Showroom. Bonjour Julien.
Bonjour Raphaël, bonjour Nathalie, bonjour à tous.
Vous avez, Julien, une douzaine de collaborateurs. Vous faites de la recherche de lieux pour la mode et de la gestion d'événementiel. Or, depuis mars, c'est à l'arrêt. Vous avez bénéficié, je crois, de prêts garantis par l'État. Quelle est votre question précise pour Nathalie ?
Alors, juste effectivement, Paris Showroom, très rapidement, on a deux activités. On a une activité en fait d'agence événementielle. On recherche en fait des lieux pour des organisateurs d'événements. Sur cette partie, je dirais que le chômage partiel a fait la grosse partie du travail. On a aussi bénéficié de prêts garantis par l'État, comme vous le dites. Là-dessus, c'est un coup dur, mais on est effectivement comme tout le monde. La deuxième partie de notre activité, c'est on est gestionnaire de lieux événementiels en fait. Et là, en revanche, c'est pas la même donne parce que on n'est pas propriétaire des lieux et on a des loyers très importants. Et je trouve que dans cette partie d'activité, on n'est pas comme tout le monde. Ma question, en fait, si vous voulez, c'est de savoir si les pouvoirs publics vont prendre conscience, vont réaliser en fait qu'il faut adapter les mesures de soutien en fonction de la spécificité des entreprises et en l'occurrence pour nous, en fonction de la structure de charge des entreprises.
Alors Nathalie, quelle est la réponse? Si réponse il y a, évidemment.
Je vais appeler Bruno Le Maire. Alors, on va croiser les doigts, on va avoir des infos sous peu, mais dans le plan tourisme, toutes les entreprises qui sont organisateurs de salons, de congrès, etc., sont concernées par le plan tourisme. Donc avec un petit peu de chance, vous êtes dedans, il suffit d'avoir le bon code NAF. Et auquel cas, effectivement, le plan de soutien est assez massif, puisqu'il y a un fonds de solidarité qui est augmenté, il y a une aide exceptionnelle, il y a un dispositif rebond spécifique, il y aura des exonérations de cotisations sociales fiscales, c'est-à-dire que c'est plus des reports, c'est des exonérations. L'activité partielle va continuer. Donc on est vraiment sur... Voilà, il y a vraiment un plan de soutien assez massif. Ensuite, il y a la mairie de Paris qui va enrichir ce dispositif, ce dispositif, et notamment étendu à tout ce qui est culturel. Donc vous êtes un peu entre deux eaux. Il y a l'événementiel, mais il y a aussi la culture, parce que vos lieux servent aussi pour des galeries. Donc c'est aussi des lieux de culture. Donc voilà, avec un peu de chance, mais dans 5 à 10 jours, on aura les réponses. Mais effectivement, tout va jouer sur le code NAF en fait de votre entreprise.
Julien.
Bien sûr. Non, mais tout à fait. On croise les doigts. Le fait est qu'aujourd'hui, bon, au niveau de la mairie, il y a un fonds de 200 millions qui a été mis en place, mais qui concerne pas en fait notre secteur, qui est surtout mis en place par les bailleurs sociaux et les services que fournit la mairie. Et pour l'instant, le plan tourisme, enfin, aux dernières nouvelles, il y avait 18 millions d'euros d'aide pour l'ensemble du secteur au niveau national. Et si vous voulez, j'insiste juste parce que je trouve que notre cas est assez intéressant, c'est-à-dire que si je prends les deux parties de notre activité, la première sur la partie d'agence, on nous demande en gros de nous endetter sur 15-20% de notre chiffre d'affaires. Bon, le coût est dur, surtout dans l'événementiel, mais je veux dire, ça passe. Mais sur la partie des gestionnaires de l'événementiel, il y a plus de 150 soutiens en fait à notre initiative, entreprises signataires, on leur demande de s'endetter de 80 à 90% de leur chiffre d'affaires.
Et ouais, ça, et là, je pense que c'est
ne pas tenir compte de la spécificité des structures de charge des gestionnaires de lieux événementiels. Ouais. Mais cela dit, comme le dit Nathalie, j'attends avec impatience les nouvelles à venir.
Nathalie ?
Alors, sachant quand même que la bonne nouvelle, c'est que, en tout cas, pour suivre ce sujet de crise depuis le début, on a réussi à chaque fois, donc les chambres de commerce, mais aussi toutes les fédérations, à faire remonter les problèmes et à chaque fois, ça a été pris en considération. Donc, ce plan tourisme, il est long aussi un peu à sortir parce que ce qu'a annoncé le ministre, c'est essayer de vraiment ne laisser personne au bord de la route. Et jusqu'à présent, la parole a été tenue. Donc, je doute pas que, alors évidemment, ça sera peut-être moins urgent. Vous pouvez le comprendre que tous les commerces qui sont vraiment dans des situations vraiment particulières, mais en tout cas, j'ai bon espoir que votre situation particulière, parce que vous n'êtes pas la seule entreprise, il y a quand même une économie autour, puisse être entendue. L'autre chose, c'est que vous savez que s'il y a des problèmes au niveau des loyers, vous êtes couvert pour l'instant jusqu'à la fin de l'état d'urgence. Donc, vous ne pouvez pas avoir de pénalité, vous ne pouvez pas avoir une résiliation, etc. Donc, s'il y a des difficultés de paiement, voilà, vous êtes couvert juridiquement. Après, le dernier point, c'est peut-être, et je sais que vous y pensez, c'est comment on utilise ces lieux qui sont magnifiques, en plus à Paris, pour leur faire vivre une nouvelle expérience.
Ouais, il faut trouver d'autres idées pour occuper les lieux. Julien, j'espère qu'on vous a aidé à y voir un petit peu plus clair. Merci Nathalie, on se retrouve demain, juste avant 14h. Merci à Frédéric Mazella et à Elisabeth Assayac. Demain, nous parlerons couture, Elisabeth.
Très bien, tout un programme.
À demain, c'était Raphaël Duchemin.